Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Il y a risque de rupture des stocks des produits contre le VIH/SIDA dans la zone de santé de Rimba en Ituri. Du coup, plus de 500 malades qui sont sous traitement s'inquiètent. Les responsables de cette structure lancent un SOS pour ravitailler urgemment les structures médicales en instant. Nord Kivu, des leaders communautaires, des autorités politico-administratives, des militaires et policiers du territoire de Beni sensibilisés à la protection et aux droits de l'enfant dans une zone de conflit armé. Activité organisée à Oicha par la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO Beni, c'est en marge de la journée de l'enfant africain. Et puis, République démocratique du Congo, une démocratie en consolidation, c'est l'intitulé d'une étude publiée mercredi à Paris, étude sur le processus électoral 2023 en RDC, réalisée par le cabinet Briard et Kimia. Pour en parler, nous recevons Maître Marciani et Mascar, tous avocats français. À tous et à toutes, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Les stocks des médicaments contre le VIH-SIDA sont presque épuisés dans la zone de santé de Rimba, dans le territoire de Mahagi, ce qui inquiète plus de 500 malades qui sont sous traitement dans cette entité sanitaire. Les responsables de cette structure lancent un appel à l'aide pour ravitailler urgemment les structures médicales en intrant. Cette zone est également confrontée à plusieurs autres difficultés pour la prise en charge des malades. Le point avec Jean Claude Loki.
C'est au total 534 personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement, dont 51 enregistrées au premier trimestre de l'année 2024. C'est ce qu'explique l'administrateur de la zone de santé de Rimba dans un entretien avec la radio Capi. Des malades qui feront face à des difficultés dans 10 jours car le reste de médicaments en stock seront périmés le 30 juin. Or, cette zone de santé est au carrefour de grandes agglomérations qui partagent la frontière avec l'Ouganda, ce qui fait que le taux de prévalence est élevé par rapport à d'autres localités. Jean-François Ogentoir renseigne que certains malades proviennent des entités voisines. À ce jour, 534 sur les 568 malades entendus sont soignés, indique l'administrateur général de la zone de santé de Rimba, soit 80% des malades entendus par an. Il redoute une rupture de stock au 1er juillet si la hiérarchie ou des partenaires ne ravitaillent pas les 11 formations médicales qui prennent en charge les malades souffrant de sida. Par ailleurs, la zone de santé de Rimba fait face à plusieurs autres défis. Il s'agit entre autres de faibles capacités d'accueil de l'hôpital général des références de Ngoté, qui ne dispose que de 75 lits pour une population estimée à près de 84 100 personnes. D'un côté, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Au sud Kivu, la MONUSCO a remis un lot de matériel médical hier à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. C'est à travers sa section médicale Level 1 à Bukavu. La cérémonie de remise a eu lieu au quartier général de la MONUSCO Bukavu. C'est dans le cadre du désengagement de la MONUSCO du sud Kivu au 30 juin 2024. Ces équipements d'urgence médicale et chirurgicale s'ajoutent à d'autres qui se trouvent déjà à l'hôpital général de référence de Bukavu pour la prise en charge des malades en urgence. Docteur Guy Moulingania, médecin directeur de cet hôpital, en parle au micro de Rachel Kiesse.
On est venu pour recevoir un don de matériel et des équipements médicaux provenant de la clinique Level 1 de la MONUSCO. On nous a fait un don d'un équipement important qui va nous permettre d'améliorer notre prise en charge des malades, surtout pour les urgences.
Et quels sont ces matériels reçus ?
En gros, ce sont des équipements pour les urgences médicales, mais aussi les urgences chirurgicales. Et ce lot vient compléter ce que nous avions à l'hôpital. Et ça va nous permettre de prendre en charge les malades dans notre structure. C'est-à-dire qu'il y a des kits pour les consultations, il y a des appareils d'anesthésie, il y a des appareils pour la prise en charge des traumas en milieu isolé, donc il y a tout un tas de matériel qui nous a été donné et cela nous permet vraiment d'agir en urgence pour nos malades.
Rendons-nous dans la province du Kwilu. L'ONG Médecins et Populations, une structure nouvellement implantée dans la ville de Bandundu, mène une série de sensibilisations sur la puberté et l'hygiène menstruelle en faveur des jeunes filles et adolescentes. Elle a réuni cette semaine à l'église La Borne Fatundu plusieurs mères et filles à cet effet. À cette occasion, cette structure invite les mères à bannir le tabou concernant l'éducation sexuelle qu'il faut donner aux filles. Le compte-rendu de Irène Boma.
Docteur Axel Izia est la présidente de l'ONG Médecins et Population de la ville de Bandundu. Elle explique les mobiles de cette sensibilisation que sa structure a organisée sur l'hygiène menstruelle en faveur des jeunes filles et adolescentes de l'église Labor Nefatundu.
Nous avons rassemblé les jeunes adolescentes de 9 à 18 ans et leurs mamans pour leur parler de l'hygiène menstruelle. Comment se protéger face aux menstrues, parce qu'il y a même des enfants qui fuient l'école à cause des règles ou menstrues. Nous avons demandé aux mamans d'abandonner l'aspect tabou, parler clairement de l'hygiène menstruelle à son enfant. Si les mamans ne sont pas claires, les enfants sont en train de ramasser des informations dans la rue et beaucoup d'enfants sont déroutés.
Cette initiative est saluée par plusieurs mères qui s'expriment en ces mots.
J'ai aimé cette sensibilisation très importante pour la santé de nos filles. Souvent, j'ai honte de lui parler, mais maintenant, je dois m'occuper d'elle pendant ces périodes menstruelles.
Cette sensibilisation rentre dans le cadre des activités de l'ONG Médecins et Population qui consiste à s'approcher de plus en plus de la population de la ville de Bandundu pour l'amener à adopter des comportements pouvant l'aider à éviter certains problèmes de santé. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu, une cinquantaine de leaders communautaires, des autorités politico-administratives, des militaires et policiers du territoire de Beni ont été sensibilisés hier à la protection et aux droits de l'enfant dans une zone de conflit armé. Cette activité était organisée dans la commune rurale d'Oicha par la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO Beni, ce en collaboration avec le groupe de travail pour la protection de l'enfant et le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire PDDRCS Beni, le compte-rendu de Grévis Salomon.
Au cours de cette sensibilisation, les participants ont été invités à s'impliquer dans la promotion et la protection des droits de l'enfant. Alexis Kioma est président du groupe de travail pour la protection de l'enfant, GTPE, dans la région.
La situation de la protection de l'enfant dans la zone est caractérisée par des enlèvements d'enfants, les kidnappings, les recrutements d'enfants. Il y a aussi un taux élevé des enfants arbitraires familiales que vous appelez enfants de la rue. Question d'interpeller tout le monde, de prendre à bras le corps la protection de l'enfant, mettre parmi les priorités la protection de l'enfant, parce que les enfants constituent l'avenir. L'enfant est aussi l'acteur principal de sa protection. Il ne doit pas céder aussi, bien que l'enfant soit la personne la plus vulnérable.
Pour sa part, le président du comité d'enfants dans le territoire de Beni estime que le retour de la paix devra garantir le respect des droits de l'enfant dans la région malmenée par des années de conflits et d'insécurité.
Cet atelier, c'est très important dans notre territoire de Beni. L'enfant est au centre de tout. Quand il y a la paix, ça va marcher très bien. C'est pourquoi j'appelle aux autorités de se concentrer pour chercher la paix. S'il y a la paix, l'enfant ne sera pas en difficulté.
Cette sensibilisation était organisée à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Beni, Grévis Salomou, Radio Okapi.
Et puis, une étude d'audit institutionnel en égalité de genre et inclusion sociale de l'appareil judiciaire révèle des taux faibles de la participation des femmes dans les juridictions judiciaires de la RDC. L'objectif est encore loin d'être atteint, selon les personnes interrogées sur la parité homme-femme en dehors de l'appareil judiciaire et l'experte en genre et inclusion sociale au sein du projet PROLA, entendez, promotion de l'état de droit, pour le compte du barreau américain. Mais les magistrats pensent que c'est significatif, nonobstant des efforts à consentir. Cette étude est menée en ce mois de juin dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Les résultats ont été restitués au cours d'un atelier d'évaluation de cette parité, atelier organisé mercredi par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le projet PROLA. Quelques statistiques de cette étude et stratégies pour accroître le taux de participation des femmes dans la magistrature, c'est avec vous, Jeff Ngoy Mulunda.
En 2011, le taux de participation des femmes dans la magistrature était de 17%. Avant, c'était 4% et plus tôt encore, on était à 0%. Selon l'experte en genre et inclusion sociale du projet PROLA, Madame Mukendi Fanny, qui nous parle du taux actuel.
25% à l'heure actuelle, mais on a aussi remarqué que dans les détails, au niveau des postes de prise de décision, le pourcentage reste toujours très faible, de 3%, de 1%. Il y a encore un travail de titan à faire. Si on parle de parité, l'objectif est d'atteindre 50%, mais si on parle de proportion, ça doit être plus.
À quoi est due cette faiblesse?
Ce souci est dû certainement d'abord au système patriarcal qui pèse encore sur notre société, mais aussi il est dû à plusieurs autres facteurs, notamment l'accès à l'éducation tardif des femmes.
Comment toutes ces proportions doivent être balancées pour atteindre l'égalité du genre et l'inclusion sociale?
Une stratégie multisectorielle, en passant par le renforcement d'abord de capacités sur ce genre de thématiques auprès des femmes, mais auprès des décideurs aussi, renforcer davantage la sensibilité.
L'étude révèle également que les femmes sont plus présentes dans les juridictions inférieures et celles qui correspondent le plus souvent au rôle de la femme, tels que les tribunaux de paix et tribunaux pour enfants.
Retour en Ituri. Les activités socio-économiques et agricoles sont presque paralysées depuis 3 mois dans une dizaine d'agglomérations de la chefferie de Babila-Babombi dans le territoire de Mambasa. Et pour cause, l'activisme des groupes armés locaux et étrangers qui perdurent et la recrudescence des vols des cacao. De nombreux habitants ne se rendent plus dans leurs champs. D'autres ont résolu carrément d'abandonner la culture de cacao qui suscite la convoitise d'hommes en uniforme. Les notables de cette entité demandent l'implication des autorités pour mettre fin à cette pratique qui paupérise la population. Ézéchiel Mouzalia.
La situation sécuritaire volatile à l'est des Biakato et Makumo dans la chefferie de Babila-Babombi impacte négativement sur les activités agricoles dans le territoire de Mambasa. Selon des sources locales, le vol récurrent des cacao devenu monnaie courante et la présence d'hommes en armes dans ces territoires empêchent les agriculteurs d'accéder à leurs champs. Certains sont soit tués par des rebelles, d'autres dépouillés de leurs biens. Cette situation impacte négativement sur les activités économiques dans la zone, indique un notable du milieu. Les zones les plus touchées sont entre autres Kamombi, Kawame, Nyaongo, Makele, Keleombi, Lukaya et Bela, où presque toutes les activités économiques sont paralysées à la suite de la présence d'une milice conduite par un certain Kilalo qui tracasse les agriculteurs. Kasere Kasiva Mwenda, député provincial élu de la circonscription électorale de Mambasa.
Pour l'instant, personne ne peut accéder dans son champ. Les gens sont en train de disparaître de jour au jour. La population ne peut plus payer les frais scolaires, payer les soins médicaux.
Les acteurs de la société civile demandent aux autorités militaires de l'Ituri et du Nord Kivu de renforcer la sécurité dans ces zones essentiellement agricoles pour stopper l'activisme des groupes armés qui se livrent à l'exploitation de cette sève. Bunia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, un entrepreneur américain d'origine camerounaise encourage les opérateurs économiques à investir sur le marché mondial afin de booster l'économie locale. Dans un point de presse hier à Kinshasa, le master coach Raphaël Djiné s'est dit prêt à faciliter le partenariat entre les entrepreneurs congolais et américains notamment et à accompagner les petites et moyennes entreprises de la RDC. Selon lui, il s'agit de son apport au programme du gouvernement concernant la promotion de l'entrepreneuriat. Raphaël Djiné dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayenda.
Nous croyons que l'immigration légale, la capacité aux entrepreneurs de fonctionner au niveau local en ayant l'œil sur le marché mondial sera très 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 capitale pour la stimulation et la facilitation de l'entrepreneuriat au niveau local. Nous croyons que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs de la RDC ne doivent pas être seulement limités sur le marché local, que ce soit dans l'import et l'export. Parce que pour vraiment faire appartenir les fonds en quantité, il faut voir le marché international. Donc, nous allons faciliter la collaboration avec les autres pays du monde, principalement les États-Unis, où nous sommes très 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 bien basés. Le partenariat entre les entreprises américaines et les entreprises congolaises. Nous allons aussi faciliter la collaboration, la représentation et des échanges au niveau des crédits. Parce que une chose aujourd'hui, c'est que la RDC a beaucoup à offrir sur le marché américain aujourd'hui. Et c'est vice-versa.
Nord Kivu, cette bonne nouvelle, fin de la pénurie des produits pétroliers dans la ville de Beni. Des stations-service restées fermées pendant 3 jours ont commencé à rouvrir progressivement depuis mercredi après-midi. Le litre d'essence qui s'est vendu à plus de 12 000 francs congolais est revenu au prix habituel, soit 3 300 francs congolais à la pompe. C'est l'une des conséquences du ravitaillement des stations-service de la ville par des camions-citernes venus de l'Ouganda via le poste frontalier de Kasindi-Lubiria. Reportage d'André Kité.
Les stations-service de la ville de Beni tournaient de nouveau à plein régime. C'est après 5 jours de pénurie de produits pétroliers due à la grève des opérateurs économiques décrétée la semaine dernière au poste frontalier de Kassindi. Depuis mercredi, quelques camions-citernes transportant les précieux liquides sont arrivés de l'Ouganda via le poste frontalier de Kassindi. Du coup, chez les revendeurs de carburant communément appelés Kadhafi, le litre d'essence qui se négociait entre 12 000 et 16 000 francs congolais depuis le début de la semaine se vend désormais à 3 500 francs congolais et 3300 francs congolais à la pompe. Selon les responsables de certaines stations-service que nous avons rencontrées, il s'agit d'un stock très limité en carburant qu'ils ont reçu. D'autres sont déjà en rupture de stock après avoir vendu en une seule journée les quantités reçues. Ils disent craindre une nouvelle pénurie et souhaitent que la ville soit suffisamment approvisionnée en produits pétroliers par les opérateurs économiques du secteur, car ces pénuries impactent négativement le quotidien de la population. C'est par exemple le cas du prix d'une course sa moto, qui du jour au lendemain est passé de 1500 francs congolais à 4000 francs congolais, voire 5000 francs congolais sur certains trajets. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Actualité internationale. La France s'apprête à contribuer à la production de vaccins en Afrique. À l'occasion du Forum mondial de la vaccination qui se tient à Paris, le président français Emmanuel Macron annonce un projet d'1 milliard de dollars pour combler les inégalités vaccinales constatées lors de la crise du coronavirus. Il a été rejoint par plusieurs dirigeants français pour donner le coup d'envoi de ce projet.
L'invité.
Publication mercredi à Paris d'un rapport sur le processus électoral 2023 en RDC intitulé « République démocratique du Congo, une démocratie en consolidation ». Cette étude d'une soixantaine de pages a été réalisée par le cabinet Briad et Kimia, un nouveau réseau d'experts dédiés à l'Afrique. Maître Charles-Stéphane Martiani et Pierre Mascart, tous avocats français, saluent la consolidation de la démocratie en RDC en dépit du contexte de guerre dans lequel ces élections ont eu lieu. Les deux avocats sont invités de Radio Capi et répondent aux questions de Michel Kifindangoy.
Pierre Mascart et Charles-Stéphane Marchiani, bonjour.
Bonjour, Monsieur Kifinda.
Vous avez publié un rapport d'évaluation du processus électoral de 2023 et vous avez proposé des réformes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre rapport que vous avez intitulé « République démocratique du Congo, une démocratie en consolidation ».
Nous voudrions dire que nous avons souhaité, si vous voulez, apporter un regard extérieur et indépendant sur ce processus électoral congolais. Extérieur parce que nous sommes des juristes effectivement français et indépendants parce que nous ne sommes pas du tout acteurs du monde politique congolais ni de la société civile congolaise. En tous les cas, notre volonté, l'idée générale qui est à retenir de ce rapport, c'est qu'on a voulu vraiment comparer le dernier cycle électoral avec les cycles électoraux antérieurs. Alors on a constaté effectivement, comme tout le monde, des difficultés, qu'il y avait eu un certain nombre de problèmes logistiques, mais en même temps, on a pu constater que par rapport au cycle antérieur, il y avait une consolidation de la jeune démocratie congolaise, effectivement.
Oui, consolidation incontestable, parce que depuis 2006, c'est la première fois que les élections se sont tenues dans les délais légaux. On connaît les contraintes, les difficultés sécuritaires à l'est du pays. Et malgré tout cela, la République démocratique du Congo a réussi à tenir ses élections. C'est remarquable parce que ailleurs dans le monde, dans des pays en guerre, je pense notamment à l'Ukraine, les élections, elles, n'ont pas eu lieu.
Quelle analyse avez-vous faite des réformes électorales qui ont été initiées au niveau du Parlement à la veille des élections?
Les réformes, en fait, qui ont été adoptées avant le scrutin par le Parlement sont essentiellement celles qui ont été portées dans la loi du 29 juin 2022, qui comporte de nombreuses nouveautés, notamment en matière de transparence du processus électoral géré par la CENI. C'est-à-dire qu'à la veille des élections, on n'a pas changé fondamentalement les règles du jeu en ce qui concerne les modes de scrutin, et on n'a pas modifié le calendrier électoral. D'un point de vue technique, cette loi a mis en place ce qu'on appelle le seuil de recevabilité.
Oui, je voudrais ajouter par rapport à ces réformes qu'il y en a une qui est intéressante, c'est la participation des femmes au processus électoral, qui visiblement a été améliorée. Mais on ne doute pas un instant que la nouvelle première ministre, qui est une femme, va renforcer ces dispositions du code électoral.
Au regard de la manière dont se sont déroulées les élections et les résultats publiés par la CENI étaient contestés par l'opposition, quelles réformes proposez-vous pour aider la RDC à consolider sa jeune démocratie ?
Pour répondre à votre question sur les réformes, je voudrais quand même tout d'abord dire qu'on a été impressionné pendant la période post-électorale par le rôle primordial qu'a joué la Cour constitutionnelle. Et il faut donc sans doute réfléchir comment aussi renforcer cette Cour constitutionnelle comme un pilier de l'État de droit.
Il y a des réformes qu'on propose, mais il y a aussi des réformes qu'on ne propose pas. On ne propose pas de modifier tout ce qui touche aux règles de scrutin concernant l'élection présidentielle. Dans notre sens, ça doit rester une élection à un tour et il ne faut pas toucher la limite de cumul de mandats de 5 ans successifs.
En revanche, il y a d'autres réformes qui peuvent être envisagées.
Alors, la première de ces réformes, c'est l'adoption d'un scrutin majoritaire pour les élections législatives, scrutin majoritaire à un tour, qui viendrait remplacer le mode de scrutin proportionnel. Ce serait, selon nous, un mode de scrutin efficace pour permettre un resserrement du nombre de groupements ou de partis politiques.
Et d'avoir au Parlement un parti majoritaire.
L'adoption d'un scrutin majoritaire conduira inévitablement au découpage en 500 circonscriptions du territoire de la République démocratique du Congo. Ensuite, l'abrogation de l'interdiction de la double nationalité.
Enfin, compte tenu des coûts aussi du cycle électoral, de s'interroger sur la répartition des rôles entre la CENI et le ministère de l'Intérieur.
Monsieur Charles-Stéphane Marchiani, Monsieur Pierre Marscart, je vous remercie.
Cher monsieur, c'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis.
Merci monsieur Kifinda de nous avoir donné accès aux ondes de Radio Capi pour pouvoir parler directement à vos auditeurs.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.